Denis Lancel, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Alors Denis Lancel, on va parler d'un ouvrage, de votre dernier ouvrage, mais peut-être avant d'aborder le sujet en question, notamment le pape François, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs?
Oui, tout à fait. À partir effectivement de mon dernier ouvrage là, qui est paru aux éditions Pierre Téqui, là. Oui, alors sinon, effectivement, moi je suis journaliste informateur religieux depuis 40 ans. Et je suis également l'auteur d'une dizaine de livres qui portent souvent effectivement sur des thèmes religieux, également sur des thèmes de société, comme essentiellement sur la famille, la politique familiale et les grands thèmes comme la conception qu'on peut avoir du mariage, enfin sur des thèmes de la défense du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme, enfin, par exemple, bien sûr, et la place du mariage dans la société, aussi cela, voilà. Et des livres d'actualité et aussi quelques livres, alors à caractère historique. J'ai été, alors, pendant plusieurs années, envoyé spécial, notamment en ex-URSS et en Pologne aussi, en Europe de l'Est en général, de même que au Liban également, plus ponctuellement. Et j'en ai tiré alors des enquêtes, bien sûr, et aussi des livres. Mon premier livre s'appelait Le passage de la mer Rouge, c'était sur le rôle des chrétiens dans la libération des peuples d'Europe de l'Est de 1945 à 1989-90. Voilà pour l'essentiel. Et j'ai écrit aussi deux livres sur le pape Jean-Paul II avant d'écrire ce livre qui est sur le pape François et son rôle complémentaire par rapport à celui des papes précédents, Jean XXIII et Paul VI, les papes du Concile Vatican II, et puis leur successeur, bien sûr, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, évidemment, et Benoît XVI.
Alors, Denis Lancel, c'est tout l'intérêt de votre livre, c'est que justement, vous parlez du pape François, mais aussi, bien sûr, en lien avec les papes qui l'ont précédé, notamment, je pense, depuis peut-être le Concile de Vatican II, c'est ça?
Oui, c'est ça, pour l'essentiel, c'est ça. Le Concile Vatican II qui avait été souhaité par le pape Pie XII, mais qui a été décidé et enclenché, si on peut dire, par le pape Jean XXIII, et qui a été mis en œuvre ensuite par le pape Paul VI, le successeur immédiat de Jean XXIII.
Alors, l'autre grand intérêt de ce livre, justement, Denis Lancel, c'est que vous remettez peut-être un peu les choses en ordre, notamment, je pense à cette idée de, voilà, des préférences que chacun des catholiques peuvent avoir pour, même en dehors d'ailleurs de l'Église, pour certains papes plutôt que d'autres, en mettant en opposition parfois certains papes. Vous montrez une forme de continuité, c'est ça?
Oui, alors il y a une continuité assez grande, parce que je pense qu'effectivement, il ne faut pas tomber effectivement dans le travers. Je pense que c'est une erreur de vouloir opposer un pape à un autre. Ça n'a pas grand sens, parce que ces papes sont tous ces papes sont venus, chacun à son heure, pour répondre aux défis de son époque, sur chacun d'entre eux. Et je vois plutôt une grande complémentarité à travers une diversité, bien sûr, mais avec aussi une continuité dans les idéaux évangéliques de l'Église. Et alors, ce qu'on remarque, ce qui est très intéressant, en même temps, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une sorte d'alternance extraordinaire d'un pape à l'autre. Par contre, alors effectivement, il y a une alternance de pape pasteur et de pape docteur. Alors, avant, il y avait eu Pie XII, avant Jean XXIII, bien sûr, a régné 20 ans, était un docteur par excellence, un enseignant théologien. Après, Jean XXIII, lui, par définition, a été par excellence, lui, a été un grand pasteur qui a décidé l'ouverture du Concile Vatican II avec cette idée d'ouverture au monde, d'ouverture sur le monde. Après, nous avons eu Paul VI qui, lui, lui aussi, a été à la fois juriste, diplomate et théologien. Et donc, en un sens, un docteur, mais qui a été notamment un grand artisan de l'œcuménisme, avec notamment le BZP de 1964 à Jérusalem, avec le grand représentant du monde orthodoxe, le patriarche Athénagoras, très important. Alors après, on a eu Jean-Paul II, c'était un peu un homme orchestre de l'évangélisation, hein, Jean-Paul II, mais qui a fait la synthèse de ce que Jean XXIII et Paul VI, alors après Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Jean et Paul, n'est-ce pas, la synthèse de l'œuvre de ces deux papes du Concile qui étaient Jean XXIII et Paul VI. Donc Jean-Paul II, bon, il est resté 27 ans à Rome. Et puis, après, nous avons eu Benoît XVI qui, lui, avait été pendant longtemps en tant que cardinal Ratzinger, représentant responsable de la doctrine de la foi, de l'enseignement de la foi à Rome, aux côtés de Jean-Paul II, Benoît XVI reste un très grand théologien. Alors lui, c'est vraiment un pape docteur en ce sens. Voilà. Et puis maintenant, avec le pape François, nous avons à nouveau un pape pasteur par excellence, qui est vraiment alors, un homme de terrain, un jésuite à la spiritualité franciscaine. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on peut voir là-dedans être un peu le doigt du Saint-Esprit, la providence de Dieu qui permet une articulation extraordinaire au service du peuple de Dieu. Moi, je suis en admiration, mais je ne vois aucune opposition à faire d'un pape contre un autre, pas du tout, parce qu'ils ont, collaboré, beaucoup collaboré. Alors, de leur vivant, ils se sont, les uns et les autres se sont beaucoup préparés, en un sens, la vie, n'est-ce pas, les a préparés, la vie de l'Église d'ailleurs, et la vie tout court les a préparés à leur fonction. Et au fond, on a beaucoup de points communs, par ailleurs. On a beaucoup de points communs, si vous voulez, entre ces papes, qui ont tous été des grands résistants spirituels. On le remarque, qu'ils soient pasteurs ou docteurs. Mais vous savez, Jean XXIII et Paul VI, étant jeunes, s'étaient opposés au fascisme italien et au nazisme.
Oui.
Jean XXIII a sauvé, avant d'être Jean XXIII, quand il était le nonce Roncalli à Istanbul, il a sauvé des milliers de juifs. Voilà, c'est un exemple. Résistance spirituelle à l'esprit totalitaire, à la haine, à la guerre. Après, vous avez Jean-Paul II, polonais, fils du peuple polonais, victime et résistant spirituel face à la fois au nazisme et au communisme. Ça, par excellence, on sait ce que Jean-Paul II a été après, en tant que pape. Il a été un homme qui a beaucoup contribué à renverser le mur de Berlin. Voilà, donc on a aussi cette résistance spirituelle. Et après, vous avez chez Benoît XVI aussi. Benoît XVI était issu d'une famille catholique bavaroise qui était anti-nazie, qui était également, c'était campé dans la résistance spirituelle aux nazis. Ça, c'est un point commun important. Et de même, chez le pape François était issu d'une famille venue vivre en Argentine, mais qui est une famille de migrants d'ailleurs, c'est important, qui était issu de milieux qui étaient également opposés aux fascistes italiens. C'est important de le savoir, parce que avec des raisons tout à fait morales et spirituelles, hein, c'était pas uniquement un aspect politique chez eux. Ça, c'est important, si vous voulez, c'est un fait important. On a affaire à des gens qui sont des résistants spirituels au nom des valeurs de l'Évangile, au nom de la défense, de la dignité de la personne humaine. C'est un facteur, et ça, c'est un facteur d'unité et de continuité. Avec, d'autre part, alors là, c'est le thème de l'écologie intégrale que peu à peu, qui s'est élaborée d'un pape à l'autre, et dont le pape François est un héros H-E-R-A-U-T, n'est-ce pas, et peut-être héroïque aussi, d'ailleurs, avec son encyclique Laudato Si, et puis la dernière encyclique Fratelli Tutti, volonté de sauvegarde de la nature et de l'humanité. L'écologie intégrale, c'est l'Église, à travers ses papes, veut sauvegarder, défendre, protéger l'être humain de la conception à la mort naturelle, contre l'avortement, contre l'euthanasie, l'homme au travail aussi, et sauvegarder la nature, l'écologie. Beaucoup de choses, si vous voulez, qui sont des points communs entre ces papes. Donc, il n'y a pas d'opposition, si vous voulez. Alors, avec d'autre part, une unité intérieure entre Jean-Paul II et François, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que le pape François est un disciple, par bien des côtés, c'est un pape de la génération Paul VI, c'est un disciple du pape Paul VI. C'est un point commun.
Oui, effectivement. Alors, c'est important de rappeler ces points communs qui sont finalement le cœur même hein, de l'enseignement de l'Église, malgré les diversités peut-être plus superficielle des tempéraments, on va dire, de certains papes.
Oui. Ah ben, la diversité de tempéraments, hein, elle est réelle, elle est assez amusante. D'ailleurs, mais là encore, il y a une complémentarité alors, entre les pasteurs et les docteurs, et entre des tempéraments, certes, assez différents. Ce que vous voyez, c'est amusant. Que vous voyez des... Déjà, bon, avant, il y avait Pie XII, qui était un ascète, un homme très... assez austère, en même temps très, très sensible d'ailleurs, en réalité, d'une grande bonté, mais qui intériorisait beaucoup les choses. Après, il y a eu Jean XXIII, un homme au contraire très extériorisé, très jovial, plein d'humour, plein de... très spontané. Et après, vous avez Paul VI. Alors Paul VI, comme Benoît XVI, c'est un intellectuel un peu timide, je dirais, à la limite, mais on a là on a des grands intellectuels, des mystiques, l'un comme l'autre. Alors Jean-Paul II, c'est, je le répéterai, c'est l'athlète complet de l'évangélisation. Jean-Paul II, le cardinal Marty disait, c'est un sportif de Dieu, oui, on peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Paul II a accumulé énormément de qualités humaines, voilà, ça c'est vraiment un homme très, hors du commun. Voilà, et puis nous avons le pape François, qui est un homme qui, alors, on peut comparer un peu même presque au pape Pie XI, avec un pape, alors, qui était prompt parfois à certaines colères, même à la limite, dans certains cas, c'est vrai, mais en même temps très généreux, un pape, c'est un homme de terrain, le pape François, c'est encore un tempérament différent, mais chaque fois, c'est au service de l'Église, nous avons des gens qui sont, oui, très différents l'un par rapport à l'autre, mais c'est amusant. Vous savez, quand on a vu arriver Jean 23 après Pie 12, tout le monde avait envie de rire. Même l'apparence physique n'était pas la même. Voilà. Et puis, c'est pareil, quand on voit François, le pape François, après Benoît XVI, c'est vrai, leur manière de s'exprimer, de parler, n'est pas la même, leur style, même, je pense, style des discours, c'est assez différent, les approches sont assez différentes, mais elles sont complémentaires, mais sur le fond, ils sont bien d'accord l'un avec l'autre. Ils se concertent, seront concertés souvent. Et donc, il ne faut pas du tout les opposer, ça c'est une illusion, c'est une erreur. Heureusement, non. Et vous savez, le Saint-Esprit est toujours là, qui les garde et qui les inspire.
Alors justement, Denis Lancel, je crois que vous vouliez notamment nous parler de la dernière encyclique du pape François, en insistant sur le fait que dans cette encyclique, finalement, on retrouve tous les thèmes chers au cœur de tous ces papes qui se sont succédés, et de l'Église, bien sûr.
Oui, effectivement, on retrouve, j'ai repéré enfin, 7 grands thèmes communs entre le pape François dans Fratelli Tutti et les textes des papes précédents. D'abord, vous avez la dignité de la personne humaine, qui avait déjà été alors évoquée par tous les papes, bien sûr, mais évoquée notamment alors, par Jean XXIII dès 1961. Au moment d'ailleurs, juste avant la crise, juste avant l'ouverture du Concile Vatican II d'ailleurs, c'était alors Jean XXIII dans Mater et Magistra, Jean XXIII défendait la dignité de la personne humaine créée par Dieu selon un ordre naturel. Voilà, je cite, des collaboratrices d'une histoire concrète qu'il fait avec elle et qui débouche sur l'éternité. Voilà. Alors, après, Jean-Paul II, bien sûr, a beaucoup insisté aussi, bien sûr. Paul VI aussi, évidemment. Après, vous avez deuxième thème, le respect des plus fragiles. Alors là, on a le respect de la vie, mais il y a aussi l'idée, alors, chez le pape François, le pape François insiste beaucoup sur la parabole du bon samaritain. Il dit qu'on doit savoir donner notamment son temps, comme le bon samaritain l'a donné à l'homme blessé. Oui, et puis, tous les papes, bon, dans ce thème, le respect des plus fragiles, de tous les papes, s'oppose à la fois à l'avortement et à l'euthanasie. Et là, vous avez Jean-Paul II l'a fait, il le fait dans son grand encyclique de 1995, l'Évangile de la vie. Bien sûr, donc là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, bien sûr, là-dessus. Et alors, face au coronavirus, face à la crise actuelle du Covid-19, ou même avant, à cause des vagues de chaleur, on remarque, c'est ce que remarque le pape François, il faut faire attention, il faudra bien protéger les personnes âgées, les personnes très âgées, qu'on risque d'abandonner avec la tentation de l'euthanasie. Alors, troisième thème, commun à tous ces papes, une critique renouvelée de l'individualisme, du libéralisme sauvage en matière économique. Et là, François dénonce un modèle économique fondé sur le profit, je cite, qui n'hésite pas à exploiter, à exclure, à tuer l'homme même dans certains cas. Et il se réfère à Pie XI, parce que le pape Pie XI, c'était le pape antitotalitaire, qui a condamné à la fois communisme et nazisme en 1937, la même semaine. Et là, il avait fustigé aussi, ce qu'on dit moins, Pie XI avait fustigé aussi l'esprit individualiste dans la vie économique. Il avait parlé d'une dictature économique et il avait... Et ça, c'était en 1931, 2 ans après la crise économique de 1929, Pie XI avait critiquer un internationalisme, un impérialisme international de l'argent. Ça, c'est important. Alors après, il y a le quatrième thème, j'avance, la fonction sociale de la propriété, à l'inverse, la fonction sociale de la propriété, avec la destination universelle des biens, sur laquelle ont beaucoup de papes, notamment Paul VI, qui est un grand pape social, ont insisté dès 1967, notamment Paul VI dans Populorum Progressio, une vraie charte du développement, parlait de la façon dont on doit ouvrir cette notion de propriété à toute la société. Alors, dans La Bohème Exercens, en 1981, Jean-Paul II reprenait ce thème de la destination universelle des biens, et Benoît XVI, lui, l'a repris également. Alors, dans Laudato aussi, en 2015, le pape François a appelé à la subordination, je cite, subordination de toute propriété privée à la destination universelle des biens et au droit de tous à leur utilisation. Et puis alors après, il y a le cinquième thème, c'est le thème d'une charité sociale et politique, le thème de la charité politique qui avait été évoqué là encore par Pie XI d'ailleurs, en 1927, et puis qui a été repris bien sûr par tous ces papes, alors le pape François bien sûr, et Benoît XVI. Benoît XVI, qui a beaucoup inspiré le pape François, vous savez, Benoît XVI dans Caritas in Veritate en 2009, un an après la crise économique et financière de 2008, Benoît XVI disait ce que sans l'absence de formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pas remplir pleinement sa fonction économique. Donc beaucoup de choses, et en fait, le pape François reprend l'expression avec cette charité sociale et politique, reprend l'expression de civilisation de l'amour que Paul VI avait formulé lors de l'année sainte de 1975. Alors après, vous avez le thème très actuel, on en parle très souvent, bien sûr, du problème de l'accueil des étrangers, le problème des migrants, que le pape François reprend très très souvent, reprend avec des nuances d'ailleurs. Alors, il aborde ce problème qui est complexe et que le Benoît XVI avait déjà évoqué dans Caritas in Veritate, en disant que ce problème des migrations requiert une politique de coopération internationale forte et perspicace et une étroite collaboration entre les pays d'origine des migrants et les pays où ils se rendent. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Pie XII, je dis bien Pie XII, avait parlé du droit, avait affirmé le droit de pouvoir émigrer en cas de nécessité, menace de mort, guerre ou famine. Donc, et cela avait été repris par Paul VI, par notamment Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Et puis, dernier thème, et ça c'est bien sûr très important, et j'en aurais fini, le rejet de la guerre à l'époque de la menace nucléaire. Alors, le premier qui l'a fait de façon éclatante, c'est Jean XXIII, en 1963, dans sa fameuse encyclique Pacem in Terris, un an après la fameuse crise diplomatique internationale des fusées de Cuba. Jean XXIII disait, je cite, « Il devient impossible de penser que la guerre soit un moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit. » Voilà, parce qu'un an avant, à Cuba, devant la crise de Cuba, entre l'URSS et les États-Unis, Jean XXIII avait largement contribué à rétablir, à sauvegarder la paix mondiale. Et puis après, vous avez sur Paul VI et François, Paul VI en 1967, dans son encyclique Populorum Progressio, et le pape François, tout récemment, a appelé à lancer l'idée de créer un fonds mondial, fonds financier, fonds mondial contre la faim et pour le développement des pays les plus pauvres, avec les ressources financières consacrées aux armes ainsi qu'à d'autres dépenses militaires. Ça, c'est une idée commune à Paul VI et au pape François, qui est un continuateur de Paul VI, sur ce thème. Sachant que Paul VI, en 1965, avait fait un discours célèbre à l'ONU, en français d'ailleurs, langue qui avait magistrature de l'universel, disait-il, avec un appel solennel au monde entier, à l'ONU, à New York, disant « jamais plus la guerre », et en montrant, comme Jean-Paul II l'a fait ensuite, les effets destructeurs redoutables des armes nouvelles, et dit, appelant à une réflexion salutaire sur l'utilité, la nécessité de renoncer à l'emploi de la bombe atomique. Voilà, donc sur ce thème, là encore, on a vraiment là-dessus, nous avons une communion de pensée entre tous ces papes, de Jean XXIII au pape François.
C'est important, voilà. C'est important de rappeler effectivement cette continuité. Alors justement, Denis Lancel, qu'est-ce que vous répondriez à, on a entendu de ci, de là, des quelques critiques sur la dernière encyclique, Fratelli Tutti, Bon, il y a la question des migrants qui est complexe, vous l'avez dit, hein, justement, et d'autres questions d'ouverture totale à la fraternité. Certains ont trouvé que ça manquait de verticalité. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critiques?
Oui, non, je ne crois pas que ça manque de verticalité. Je pense en réalité que, alors, le pape François s'appuie sur l'enseignement des papes précédents. Il s'appuie sur le travail immense de ce grand théologien qui était Benoît XVI, et puis sur l'œuvre de Jean-Paul II et de Paul VI. Alors, les papes n'ont pas non plus répété complètement, ce ne sont pas des clones, les papes, vous comprenez, ce ne sont pas des perroquets, ils n'ont pas répété complètement tout ce que les papes précédents ont dit. Et le pape François, je parle davantage d'un pasteur qu'un docteur, n'est-ce pas? Bon, même si les pasteurs sont un peu docteurs, les docteurs sont également pasteurs. Hein, mais... Alors, non, manque de verticalité, c'est en fait une critique un peu superficielle. Le pape François, comme une consoeur du journal La Vie l'a dit récemment, c'est un pape urgentiste. C'est un pape urgentiste, vous comprenez. Alors, vrai, il ne va pas reprendre, il ne va pas imposer une thèse de doctorat de théologie supplémentaire à des gens qui risquent de mourir de faim ou à des gens comme le peuple, je pense aujourd'hui au malheureux peuple arménien qui est terriblement agressé dans le Haut-Karabakh, vous comprenez. Nous sommes dans une situation qui est plus que tragique. Le pape François, comme déjà Jean-Paul II l'avait été face au communisme, d'ailleurs dans d'autres cas de figure, le pape François va au plus pressé. Les papes, vous savez, choisissent des priorités. Alors, les critiques que des intellectuels de salon peuvent faire depuis leur bureau me paraissent très superflues. Voilà. Même on aurait pu dire ça de Jean XXIII. On aurait pu dire, oui, mais Jean XXIII, bon, est-ce qu'il n'est pas son discours, est-ce que ce n'est pas un discours un petit peu ceci, un peu cela, est-ce qu'il va pas, c'est pas à la surface. Voilà. Jean XXIII a largement contribué à sauver la paix du monde en 1962 devant la crise des fusées de Cuba. Bon, que demande le peuple? Voilà. Vous savez, alors, bon, alors sur le thème des migrants, le pape François a une pensée, il insiste beaucoup, c'est vrai, mais il a une pensée qui est plus nuancée que l'on pourrait croire. Le pape François a bien dit qu'on doit aider les migrants autant que possible. On doit accueillir les migrants autant que possible. Voilà, mais simplement, il considère, et il reprend dans Fratelli Tutti le thème de la parabole du bon samaritain en disant qu'on doit quand même consacrer son temps à des gens qui peuvent être en danger. Voilà ce que d'ailleurs le pape, je le répète, le pape Pie XII lui-même disait, on a des hommes en danger, de mort notamment, ont le droit de migrer, d'émigrer, de quitter leur pays. Voilà.
C'est important ce que vous dites, hein, notamment sur cette urgence, hein, qui tient à cœur le pape François. Dans un monde qui est quand même, on peut le dire, très, très complexe, on ne peut pas dire que la paix soit là. Il y a des conflits parfois pas forcément énormes, mais un peu partout. Il y a des tensions dans le monde.
Oui, il y a le terrorisme.
Il y a le terrorisme. Il y a quand même des foyers de conflits un peu partout. C'est important pour le pape François de s'inscrire dans cette nouveauté complexe du monde dans lequel on vit aujourd'hui. On
Oui,
n'est plus dans une opposition comme avant avec le rideau de fer, le communisme d'un côté, l'Ouest de l'autre. Là,
c'est plus complexe.
on
Oui,
est
mais
beaucoup plus complexe.
ça n'est plus seulement, effectivement, il n'y a plus de bipolarité simple, apparemment, entre Est et Ouest. Là, maintenant, on est plutôt dans une logique nord-sud, notamment, mais on est dans une pluripopularité, pardon, une pluripolarité, excusez-moi. D'une part, d'autre part, le pape François, lui, a émis c'est un mot un peu savant, il parle de polyèdre, POLY, accent grave DRE, pour parler des positions possibles au sein de l'Église, notamment au sein de la société, de l'humanité, pour résoudre tous ces problèmes très complexes de l'humanité d'aujourd'hui. Voilà. Donc il faut éviter d'être manichéen, d'opposer, de dire d'un côté il y a le camp du bien, d'un côté le camp du mal. Il faut éviter les idéologies, les déformations idéologiques de l'Évangile. Le pape François insiste beaucoup pour que les chrétiens évitent les déformations idéologiques de l'Évangile. Là-dessus, et comme il était jeune jésuite en Argentine, le pape François a beaucoup souffert d'ailleurs de ces tendances qui est débouché sur des sectarismes, parfois tout à fait violents d'ailleurs. Et non, le pape François veut qu'on reste fidèle à la base de l'Évangile. C'est très important, ça.
Alors, François, le successeur, la complémentarité des papes, c'est le titre de votre ouvrage, Denis Lancel. Et oui. Cet ouvrage est édité donc chez Pierre Tecky. Hein.
Voilà.
En tout cas, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce temps de partage. Et je pense que ça pourrait intéresser vraiment nos auditeurs au plus large, hein, parce que parler du pape François, mais aussi dans ce rapport et ce contraste et cette continuité surtout avec tous les papes qui l'ont précédé.
Oui, merci à vous.
Merci beaucoup, Denis Lancel.